Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Corentin Capliès-Diège, chargé de mission des droits de l'enfant pour les Francas de l'Ain.
Bonjour Corentin, je suis Perrine, animatrice pour le média local Radio B. On se retrouve aujourd'hui pour parler emprise, complotisme et radicalisation sur Internet et dans la vie quotidienne.
L'objectif principal de cette émission est de comprendre comment agir pour protéger les enfants exposés aux influences extérieures.
Cette émission spéciale est enregistrée depuis l'Université de Bourg-en-Bresse sur le campus Lyon 3 et nous les remercions pour leur accueil.
Pour traiter de l'emprise, nous sommes en compagnie d'Éric Delmar, défenseur des enfants, et de Pascal Duval, directrice de l'UNATFI. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Éric Delmar, merci d'être là. Ça consiste en quoi exactement être défenseur des enfants ?
Alors le défenseur des enfants est l'adjoint de la défenseur des droits, donc la défenseur des droits c'est Claire Hédon, et le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution qui veille au respect de nos libertés et de nos droits par les institutions, par les associations. Et en tant que défenseur des enfants, ma mission elle est de défendre les enfants et de faire connaître leurs droits. Et pour ça, nous avons 650 délégués partout en France, dans l'Hexagone et en Outre-mer, qui peuvent recevoir gratuitement les gens lorsqu'ils pensent avoir subi des atteintes aux droits. Et en matière d'enfants, ce sont des enfants, par exemple, en situation de handicap, au fond, qu'on ne fait pas accéder au statut d'élève. Ce sont des enfants repérés en danger et qui, pour autant, ne sont pas protégés. Ce sont parfois des décisions de magistrats non mises en œuvre par défaut de moyens. Mais aussi des enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont pas accès à l'éducation, des enfants qui subissent des dérives sectaires, parfois totalement invisibilisés en n'en ayant pas forcément conscience, des enfants qui subissent la traite des êtres humains. Donc tout ce qui touche au domaine des droits de l'enfant et dont les droits ne sont pas respectés ou ignorés par un certain nombre d'institutions.
Pascal Duval, vous faites partie de l'UNATFI. Qu'est-ce que c'est et quel est votre rôle ?
Alors, je suis directrice de cette association qui a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence. C'est une association qui accompagne les victimes de dérives sectaires, en fait. Elle est là également pour étudier le phénomène qui évolue très vite. Et ce sera certainement le sujet d'aujourd'hui. Et on met en place des actions de prévention en fonction des cibles que l'on vise, et notamment les professionnels de la petite enfance, mais aussi les professionnels de santé et en général, et puis les jeunes aussi également, parce que on pense très très fortement que le phénomène sectaire doit être appris dès le plus jeune âge.
Éric Delmar, la Convention internationale des droits de l'enfant date de 1989. En quelques mots, les enfants ont-ils les mêmes droits que les adultes ?
Alors, pour répondre clairement à votre question, en 1989, on va se rappeler, hein, c'était François Mitterrand qui était président de la République, et la Convention donc, est ratifiée en 1989. Alors, c'est aujourd'hui le traité, alors malgré l'actualité, hein, mais c'est le traité en matière de droits humains le plus ratifié au monde, puisque 196 pays ont ratifié la Convention, à l'exception des États-Unis, qui l'ont signée, mais qui ne l'ont pas ratifié. C'est-à-dire qu'ils ne le ratifié, ça veut dire qu'on met dans le droit positif le droit dans son pays, les 54 articles de la Convention. Et François Mitterrand, à l'époque, il dit quelque chose comme ça. Il dit parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont ni influence politique ni économique, mais parce que leur développement, leur bien-être est crucial pour les enfants qui sont aujourd'hui et pour les adultes qui seront demain, le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais il précise tout de suite, petit être humain ne veut pas dire petit droit. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les lois françaises n'ont eu de cesse depuis, bien avant, hein, puisque nous sommes dans un pays de droit, et nous avions des droits constitutionnels. Hein, le droit à l'éducation, à l'instruction, le droit à la santé sont des droits inscrits dans la Constitution. Et puis, en termes de protection de l'enfance, l'assistance éducative en 1958, la protection administrative un an après. Donc on avait déjà des lois fortes. Mais ce qui est fondamental dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est à la fois la notion d'intérêt supérieur de l'enfant et la prise en compte de la parole de l'enfant. Et je pense qu'on y reviendrait. Donc on y reviendra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis, nous avons des lois, mais nous avons un gap énorme entre les lois et leur applicabilité. C'est-à-dire que protection de l'enfance, je vais prendre 2007, 2016, 2022, et là on nous présente une future loi pour 2026, alors que nous avons encore des articles dans la loi de 2007 qui ne sont pas mis en œuvre, je pense au projet pour l'enfant, les articles de la loi de 2016 sur la préparation de la majorité à un an, sur l'accès aux soins des enfants en danger, c'est à peine 30% des enfants en danger qui ont un accès réel aux soins, et puis 2020, je pourrais vous parler des enfants mis à l'hôtel alors que la loi ne l'autorise plus. Donc c'est comme si en matière d'enfance, en fait, on ne se sentait pas obligé d'appliquer les lois. Donc, et aujourd'hui, avec l'augmentation de la pauvreté, avec les difficultés financières d'un certain nombre d'associations, voire des services publics, eh bien, le gap entre le droit établi et l'accès effectif au droit est de plus en plus prononcé.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, de manière très concrète, comment définir l'emprise aujourd'hui ?
C'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire qu'on peut tous être sujet à cette fameuse emprise, c'est-à-dire que dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une relation un petit peu toxique, on peut effectivement être sous emprise. Si on parle de la dérive sectaire en particulier, la dérive sectaire se fait toujours sur un fond de croyance, c'est-à-dire qu'on va être mis sous emprise au nom des croyances et qui vont être appliquées, qui vont être mis en place, si vous voulez, par la doctrine d'un groupe ou d'une personne isolée. La mise sous emprise, c'est ce qui conduit l'individu. C'est une étape, c'est un processus en plusieurs étapes, avec, pour commencer, ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire qu'au départ, tout va être très agréable et vous allez apprécier d'être avec la personne, ou avec les personnes, ou dans le groupe de personnes. J'ai l'exemple d'une femme qui m'a dit « J'ai été sauvée de la toxicomanie grâce à un groupe sectaire. » Et en fait, je lui ai démontré qu'elle aurait été dans un autre groupe non sectaire, ça aurait pu marcher aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est cette espèce de bombardement d'amour quand vous arrivez dans un groupe sectaire. Ensuite, progressivement, on va vous désindividualiser, c'est-à-dire qu'on va vous enlever tout ce qui constituait votre personnalité, de façon à pouvoir instaurer dans votre cerveau la doctrine, c'est-à-dire tout ce faisceau de croyances et toute l'histoire du groupe et surtout son projet sociétal. Et en fait, on peut caractériser l'emprise à partir du moment où, quand on vous fait douter du groupe, vous avez une forme de culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de loyauté par rapport à votre groupe et que, quand vous doutez, vous avez l'impression de trahir un petit peu le groupe et la doctrine. Et l'emprise, on dit qu'elle est totale quand vous vous interdisez de douter. C'est-à-dire que la culpabilité devient si forte et si douloureuse que vous allez vous interdire complètement de douter. Et c'est pour ça, et on en reparlera certainement après, que quand l'État avait tenté de mettre en place des déradicalisations, on savait très bien que ça ne fonctionnerait pas, puisque par définition, une personne sous emprise s'interdit de douter, même avec tous les meilleurs arguments du monde.
D'accord, donc que ce soit un groupe, une famille, les mécanismes sont les mêmes. Mais l'emprise est-elle toujours intentionnelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut s'installer sans qu'il y ait la volonté consciente de manipuler ?
Alors, consciente, inconsciente, c'est pas facile à déterminer. Dans le sujet que je connais, c'est vrai que les gourous sont souvent des pervers narcissiques, mais il arrive effectivement dans des familles, il y ait un parent pervers narcissique. Et effectivement, c'est pour ça qu'on reconnaît les mécaniques, la mécanique d'emprise et le processus qui va avec. C'est juste le fond, hein, l'emprise sectaire, c'est juste le fond qui change. Mais sinon, conscient, inconscient, je pense que, même si c'est inconscient au départ, le dominateur va très rapidement ressentir un plaisir à prendre du pouvoir sur l'autre. Et c'est ce qui va le nourrir et c'est ce qui va faire que c'est parce qu'il a des victimes qui lui cède, en fait, hein, qu'il va prendre du plaisir à avoir ce pouvoir et qu'il va vouloir en avoir de plus en plus. C'est-à-dire que son jeu, après, ça va être de savoir, de faire tout pour voir jusqu'où la personne peut aller pour lui. C'est ça son vrai plaisir.
Dans les médias, on entend beaucoup le terme radicalisation. Quels sont les points communs et les différences du coup entre les mécanismes d'emprise et de radicalisation ?
Alors nous, on considère que c'est complémentaire, c'est-à-dire que l'emprise, donc elle est d'un individu sur un autre ou sur d'autres, alors que la radicalisation, c'est un peu la relation qu'on a soi-même avec les croyances. La radicalisation pour nous, c'est l'adhésion radicale en fait à une croyance quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'à l'UNALFI, on s'est rendu compte que la radicalisation s'appliquait... Alors, la radicalisation, c'est quoi déjà, hein? Donc, c'est croire de façon tout à fait radicale à quelque chose qui n'est pas vérifiable, hein, qu'on soit clair sur les mots, et qui peut amener, quand la radicalisation est très forte, qui peut amener au passage à l'acte. Donc, on s'est rendu compte, nous, à travers notre travail depuis 50 ans, que ceci est valable pour l'ensemble des croyances. C'est-à-dire qu'à l'UNALFI, on ne considère pas qu'une croyance est plus dangereuse qu'une autre. On considère qu'à partir du moment où on est dans le domaine de la croyance, on peut se radicaliser. Peut-être que je vais donner des exemples pour être peut-être plus clair. Mais pour nous, la radicalisation, on voit des végétariens radicalisés, on voit effectivement des musulmans radicalisés, on voit des gens qui pratiquent le Reiki ou la kinésiologie qui sont radicalisés. En fait, c'est ça. À partir du moment où ce n'est pas vérifié, on appelle ça une croyance, et adhérer très fortement, radicalement à une croyance, c'est de toute façon problématique.
Alors, Monsieur Delmar, est-ce que les mineurs sont plus exposés ou simplement exposés différemment ?
Alors, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dont je fais partie du conseil d'orientation, évalue entre 60 000 et 80 000 enfants victimes directes ou indirectes de dérives sectaires, ce qui est un chiffre assez complexe à évaluer, mais qui montre l'invisibilité des enfants dans ces dérives sectaires. Ce que moi je peux observer en tant que défenseur des enfants, c'est d'abord à l'international, puisque je fais partie des défenseurs des enfants dont les pays sont membres du Conseil de l'Europe, et je suis président des défenseurs des enfants des pays de la francophonie. Donc je peux voir aussi l'ambiance actuelle internationale que vous connaissez, il suffit de suivre l'actualité particulièrement anxiogène. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte de fausses informations très troublant, qui est sur fond, au fond, qui s'exprime au niveau international par, je dirais, un ultralibéralisme complètement désinhibé, avec un retour de la loi du talion, du plus fort, et qui remet en cause, en question, un certain nombre de droits fondamentaux. Je pense les libertés individuelles, la remise en cause de la justice et la remise en cause du droit au recours, ce qui fonde nos démocraties. Et sous couvert, effectivement, de trafic d'informations. Et donc, forcément, les enfants sont particulièrement victimes de ça, pour plusieurs raisons. Alors, cette ambiance-là crée aussi un sentiment chez nos concitoyens de forte incertitude et de caractère anxiogène. Et on est passé des dérives sectaires d'il y a 20 ans, 30 ans, qui étaient des quêtes idéologiques, à une quête idéologique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on souhaite l'idéal en permanence. Et on crée de l'insatisfaction en permanence. Et on a repéré aux défenseurs des droits trois aspects fondamentaux, trois caractéristiques de ces enfants victimes de dérives sectaires. D'abord, les premiers enfants, c'est ceux qui sont sous influence d'adultes et qui n'ont même pas conscience qu'ils sont sous emprise d'adultes. En fait, ces enfants n'ont pas eu le choix parce qu'ils sont depuis toujours sous l'emprise, par exemple, de parents adeptes, eux-mêmes sous l'emprise de mouvements sectaires et qui nient totalement la construction de la vie privée, par exemple, des enfants, l'intimité, l'enfermement sur soi, la peur de la société, dans un contexte assez particulier, puisque dans un contexte général, je rappelle qu'on supporte de moins en moins que nos enfants jouent dans la rue, mais en même temps, on leur reproche d'être en permanence sur les écrans. Donc on a aussi un contexte qui rend d'autant plus invisible dans les violences intrafamiliales les enfants victimes de parents adeptes. Les deuxièmes choses qu'on voit, nous, c'est des parents dans une telle vulnérabilité. Je pense notamment à des parents qui pensent, à juste titre, ou avoir des enfants différents, c'est-à-dire des enfants, par exemple, en situation de handicap et qui ne vont pas avoir accès à aucune aide. Qui vont être déscolarisés. Hein, tous ces enfants, tout à l'heure je disais, un certain nombre d'enfants qui n'arrivent pas à obtenir le statut d'élève, au fond. Et donc on va aller chercher, on va être beaucoup, à force de souffrance, à force de voir que toutes les portes se ferment et que, je vois par exemple, en France, si vous êtes parent d'enfants en situation de handicap, et que pour des raisons professionnelles, ce qui peut arriver à tout le monde, vous êtes amené à déménager pour retrouver un établissement médico-social en cours d'année, c'est impossible. Impossible. Dans votre département, c'est entre 2 et 5 ans pour avoir une place en IME ou en ITEP. Et donc, on a quelques situations, pas toutes bien entendu, où des parents n'avaient pas prévu d'arrêter leur travail pour s'occuper de leur enfant. Et parmi ces parents, vous avez, je rappelle que nous avons 3 millions d'enfants qui vivent dans un contexte de monoparentalité, dont 70% sous le seuil de pauvreté. Et on a parfois des parents et souvent des mamans qui vivent seules et qui sont épuisées par l'absence de recours pour scolariser leur enfant ou pour avoir accès aux soins d'enfants différents. Et on a des situations où les parents, par faiblesse, vont se retourner vers quelque chose de l'ordre du gourou qui va leur promettre un certain nombre de mieux-être et qui n'arriveront pas puisque ce sera un mouvement de dérive sectaire qui va leur soutirer de l'argent et les mettre sous pression et sous emprise, comme ça a été très bien dit. Et puis le troisième, c'est l'accès désinhibé total au numérique. Alors le numérique, c'est formidable, ça accélère les démarches, on n'est plus obligé de se déplacer, mais c'est aussi pour les enfants, c'est comme si vous aviez mis les enfants qui n'ont pas le permis dans une voiture de course, sur l'autoroute, sans code de la route, mais ils ont accès aux pédales, au volant et pas au frein. C'est ça. Donc c'est un déversoir du pire, hein, puisque, enfin, je vais prendre toute la cybercriminalité. Voilà. Donc on a des enfants qui peuvent eux-mêmes se retrouver sous emprise, dont les parents, dans leur chambre, dont les parents vont ignorer. Et donc on peut avoir des enfants, et ça a été très bien, enfin les services de l'État connaissent ça très bien, des jeunes qui vont se retrouver embrigadés, sous emprise ou radicalisés, et dont les parents, quelle que soit la classe sociale. Voilà. Donc on a nous observé ces trois aspects-là, et qui montrent à la fois tous les enjeux que nous on peut, avec la Défenseure des droits, faire comme recommandation au gouvernement régulièrement, sur des mesures de protection, l'aller vers, c'est-à-dire des équipes dans la prévention, dans la polyvalence de secteurs, dans les départements, etc., dans l'importance des assistantes sociales, l'importance de la santé scolaire, enfin l'importance de tous les métiers de l'humain auprès des enfants, et bien entendu la sensibilisation au numérique. Et en ce moment au Parlement, on est en train de voter l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Enfin, regardons, l'interdiction, elle peut être très carrée, elle peut être très normative, mais enfin, regardons aujourd'hui les technologies, et l'Australie en est l'exemple type, comment des jeunes détournent très facilement ces enjeux-là. Il suffit aujourd'hui, vous pouvez trafiquer, vieillir votre photo de manière très, très, très facile. Donc, on voit bien aussi l'importance de sensibiliser, de protéger et de donner les moyens aux adultes de protéger les enfants.
Et justement, comment on repère une situation d'emprise ? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter l'entourage éducatif, scolaire ou familial ?
Oui, bien sûr, il y a toujours des signes. Le problème, c'est que ces signes sont perçus comme l'inverse de la souffrance. Je m'explique. La plupart des enfants appartenant à des mouvements sectaires qui sont en milieu ouvert, hein, c'est-à-dire que les parents vont travailler, les enfants vont à l'école, ont un comportement exemplaire à l'école. Et c'est là la grosse difficulté. C'est que les enseignants ne se plaignent jamais de ces enfants parce que ce sont les élèves rêvés qui vont obéir, qui vont arriver à l'heure, etc., etc. Et le problème, en fait, il est là. C'est que c'est pas tout à fait normal. Un enfant qui ne se rebelle pas de temps en temps, un enfant... Alors, il y a des enfants très sages, hein, j'en connais, hein, mais ceux-là sont particulièrement sages. Et doivent normalement attirer l'attention, alors que c'est exactement l'inverse. Pourquoi ces enfants sont extrêmement sages ? C'est parce qu'on leur a répété et répété et répété qu'ils devaient donner l'exemple, qu'ils devaient... je vais prendre un groupe au hasard... mais je risque d'avoir des problèmes, donc je ne vais pas le prendre. Un groupe très connu qui dit, pour respecter notre Dieu, il faut que tu sois exemplaire. Il faut que tu montres que notre groupe est parfait. Donc il va être parfait. La seule chose que les enseignants ignorent, c'est que le soir, quand il rentrera à la maison, déjà on lui défera une partie de ce qui a été dit dans la journée, parce que si ça ne plaît pas à ce Dieu, il va falloir effacer. Hein, si on lui dit qu'il peut y avoir des filles qui se transforment en garçons, on leur dira non, c'est Satan qui fait ça. Donc on va déconstruire ce qui pourra être enseigné dans la journée. Et il faut savoir que ces enfants, je pense à eux en particulier parce que ils ont des craintes très fortes dans leur vie. Ils ont et c'est là où on perçoit la maltraitance psychologique des enfants. C'est que on leur fait croire soit que la fin du monde va arriver, soit que Satan va venir frapper leur groupe s'ils se comportent mal. Et ce sont des enfants qui, en rentrant chez eux, vont pleurer en se disant bah tiens mon copain, et pourtant il fait pas partie de mon groupe, mais je l'aime bien. Mais si un jour il y a la fin du monde, lui il sera pas sauvé. Et ce sont des enfants devenus adultes qui expliquent que tous les soirs ils se couchent en pleurant. En ayant peur de perdre des camarades dans la journée.
Je partage tout à fait ce que vous venez de dire et je prends pour exemple comment par exemple dans le cadre de l'instruction à domicile, comment les services de l'État et l'éducation nationale notamment, alors il y a plusieurs motifs, hein, je ne vais pas dire que l'instruction à domicile fait partie du cadre réglementaire et légal, mais l'État et notamment les services de l'éducation nationale à juste titre ont aussi une vigilance sur des enfants qui pourraient être mis sous emprise ou des raisons qui appartiennent parfois aux parents et pas aux enfants, même si encore une fois il y a des raisons justifiées autour de la santé, parfois autour du handicap parce que les parents n'ont pas le choix parce que leur enfant est exclu en permanence ou on les appelle tous les jours pour venir chercher leur enfant à l'école, qui peuvent abandonner. Mais il y a aussi des mouvements potentiellement de dérive sectaire. Mais par contre, à l'inverse, lorsque les enfants sont à l'école, effectivement, on est dans une culture très française où, au fond, ce qui nous intéresse, c'est l'élève et pas l'enfant. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas percuté que pour que l'élève émerge, il faut sécuriser l'enfant. Et on le voit bien, tout est organisé. Tout est organisé dans la classe, mais les choses sur qu'est-ce qui se passe dans les toilettes, dans la cour, dans les interstices, etc. La question de l'enfance, elle est rangée du côté des parents. Nous, on veut des élèves qui arrivent plutôt bien construits avec des éléments de langage. Et puis, voilà, je caricature à peine. On a vraiment, et d'ailleurs, les enseignants se retrouvent souvent isolés aussi pour prendre en charge la complexité d'un enfant. Donc, effectivement, on va s'intéresser beaucoup plus à ce qui fait trouble à l'ordre public. Et c'est exactement la même chose pour le handicap. Un enfant en situation de handicap, mais qui fait pas, qui est plutôt dans l'introspection ou dans des comportements un petit peu auto-agressifs, vont inquiéter. Mais ce qui va surtout inquiéter, c'est ce qu'il voit, ce qui explose, ce qui monte sur la table. C'est-à-dire des effets qu'on va d'ailleurs souvent très, très réglementer. On le sent parfois en ignorant le caractère handicap. On a des enfants qui ne supportent pas le bruit, par exemple. Et on sait que ça va les insécuriser. Et si on ne comprend pas ça, si on n'est pas formé, ben on va penser que l'enfant est indiscipliné. Et bien donc, on a tous des enfants. C'est exactement le même principe que les jeunes aidants. Vous avez 700 000 enfants. Jeunes aidants en France, qui arrivent en retard à l'école parce qu'ils aident un parent en situation de handicap, un frère et soeur en situation de handicap, qui c'est eux qui vont faire les courses, c'est eux qui n'ont pas fait leurs devoirs, etc. et qui ne vont pas le dire et qui arrivent en retard à l'école ou avec des devoirs pas faits. Eh bien, s'il n'y a pas une attention particulière et une écoute, on va passer à côté. Donc on passe à côté d'un certain nombre de choses parce que les enfants ne font pas de vagues. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les enfants n'aient plus besoin de passer à l'acte pour enfin se sentir écouté. Ça, c'est un vrai, vrai enjeu qui n'est pas simple, mais qui nécessite, encore une fois, des équipes pédagogiques formées, diversifiées, outillées. Mais encore faut-il laisser rentrer l'enfant dans l'école et pas uniquement l'élève.
Alors, pour compléter juste ce qui vient d'être dit, quand on demande aux enfants de sectes devenus adultes et sortis par leurs propres moyens du mouvement ce qu'ils auraient espéré, tous répondent « on aurait aimé que quelqu'un nous remarque parce que nous, on était dans l'incapacité d'en parler ».
Alors, deux établissements scolaires nous ont accueillis dans le cadre de cette émission pour récolter la parole des enfants sur le sujet de l'emprise. On leur a demandé auprès de qui ils pouvaient trouver de l'aide.
Ben, c'est pareil, à mes parents, ils savent beaucoup de choses. Ceux de ma famille.
À mes parents. La plupart du temps, à mes parents. Des fois, si j'ai confiance aux animateurs, je vois ma psy.
À mes parents, si je suis en classe, à mes copains, à la maîtresse, à mes parents.
Soit à mes copains, ou alors à la maîtresse.
Mes parents, ma famille et mes potes.
À mes parents.
Ben, mes parents.
On entend que les enfants accordent une grande confiance à leurs parents. Comment ça se passe lorsque l'emprise intervient dans le cadre familial, Pascal Duval ?
Eh bien, c'est, j'ai envie de dire que ce n'est pas le bon interlocuteur, du coup, hein, le parent, puisque le parent va... Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme que j'ai donc rencontrée aussi adulte, hein, une enfant de secte, comme on dit, qui expliquait que sa mère était la gourelle du groupe. Et elle n'a eu donc aucune compréhension à l'extérieur et aucune compréhension à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur du groupe, on lui disait « mais on ne voit pas de quoi tu te plains, tu as la chance d'avoir une mère qui sait faire des miracles ». Donc il n'y avait aucune écoute possible au sein de sa famille, de ses proches, puisque sa famille ne côtoyait que des personnes qui partageaient les mêmes croyances. Et à l'école, donc, elle n'a pas pu s'exprimer et donc s'est retrouvée tout à fait seule. Donc, effectivement, les enfants de secte, les parents ne sont pas les meilleurs interlocuteurs.
Éric Delmar, vous en parliez un peu tout à l'heure. Quels droits fondamentaux sont le plus souvent mis à mal lorsque l'enfant se trouve sous emprise dans un groupe avec un adulte ?
Oh, je dirais que le droit fondamental, c'est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la prise en compte de la parole de l'enfant. Et alors là, je pourrais vous en parler des heures, je suis sûr que vous seriez fortement intéressé. Au fond, nous ne considérons pas l'enfant comme un interlocuteur digne d'être entendu. On sait tous, vous savez tous, que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il ne parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle au bébé qu'il apprend à parler. Et quand l'enfant grandit, on va être très très vite sous pression de forme d'autorité au sens pouvoir, autoritarisme, et pas transmission de savoir, bienveillance. Je dis souvent qu'il faut donner le courage aux enfants de prendre la parole, de s'assurer que s'ils se trompent, ils ne seront pas humiliés, moqués par leurs camarades ou par les adultes. Moi, j'adore aller dans les écoles maternelles, parce que dans les écoles maternelles, quasiment à chaque fois, je crois pas même, oui, tout le temps, les enfants sont installés sur des petits bancs en U. C'est, vous savez, la base de la démocratie. Quand on prend la parole, on la prend devant tout le monde. Et les enfants, les enfants, dès 3 ans, vous leur donnez la parole, ils vont la prendre. Alors, ils vont la prendre, ils vont se lever, ils vont dire quelque chose. Ils ne vont pas forcément répondre à la question que vous avez posée. Et certains vont même dire la même chose que l'enfant précédent. Mais ce qui est important, c'est lui donner le courage de prendre la parole. Et donc, ça veut dire pour l'adulte d'accepter que ça prenne du temps, d'être un peu débordé et que l'enfant n'ait pas répondu. Et puis quand les enfants grandissent, même s'il y a le développement des compétences psychosociales, mais enfin, pour les pédagogues, il suffisait de relire de Crowley, Freinet, enfin, toute la littérature depuis le XVIIIe siècle sur les grands pédagogues. Et dans les pédagogies actives, on sait, dans l'éducation populaire, enfin, au Franca, on le sait et parfaitement. Eh bien, on remet les enfants les uns derrière les autres et beaucoup d'enfants, quand ils prennent vont pas oser prendre la parole, ils vont c'est un autre enfant, on va laisser celui qui est à l'aise prendre la parole, et puis certains enfants vont se retrouver en face à face, comme ça, avec l'enseignant, vont rougir, vont retrouver des tics, surtout qu'à la maison, on n'a pas forcément la prise en compte de la parole, on est parfois sur sa tablette, on ne mange plus forcément ensemble, ou alors, lorsqu'on est dans des dérives sectaires, la parole est totalement menaçante. Donc on a des enfants qui sont pas entendus. Nous, on l'a très bien vu, par exemple, avec le phénomène de harcèlement, par exemple. Pourquoi tu n'as pas parlé avant, alors que tu es sensibilisé maintenant avec le programme phare dans chaque... Mais parce que personne ne m'a demandé mon avis quand tout allait bien, et en plus... Les enfants vivent les injonctions paradoxales très fortes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté de parole, une possibilité de parole dans la classe, mais au même moment, certains enfants sont harcelés dans les toilettes, zone de non-droit où personne ne va. Donc on voit bien aussi comment les enfants ne sont pas considérés. Et alors, il suffit d'observer la journée d'un enfant. Hein. Vous savez, le tutoiement, qui est très intéressant, parce que le tutoiement peut donner un espace sécure, de proximité, une forme d'affection. Mais regardez comment le tutoiement, lorsqu'il n'y a pas un autre adulte témoin, s'exprime. C'est le « tu » qui tue, c'est l'impératif, c'est « je te donne des ordres, tu fais ci, tu fais ça », des injonctions paradoxales. Hein. C'est exactement quelqu'un qui vous mettrait la main sur l'épaule, tiens, ça c'est une forme d'emprise, hein. Je vous mets la main sur l'épaule et en même temps je vous dis « tu sais, moi je ne marche pas à l'affectif ». C'est-à-dire que mon corps dit l'inverse de ce que je dis. Les enfants sont hyper sensibles à ces questions-là. Donc la question de la parole, on leur dit tout le temps, on va la leur donner, mais au fond, on ne les écoute pas. On ne les écoute pas assez. Enfin, y a dans plein de. Dans le rapport à la justice, dans tout ce qu'a pu dire la CIVIS, notamment sur les violences sexuelles, à peine 2% des auteurs pédocriminels sur les enfants se voient réellement condamnés. On voit bien que la parole des enfants est totalement pas suffisamment audible, pas suffisamment entendue. Alors que les enfants ont parlé, parfois maladroitement, mais ils ont parlé. Donc, si depuis tout petit, vous avez l'expérience qu'on vous dise d'un côté parle, 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 mais qu'à chaque fois on ne vous écoute pas, eh bien, vous, soit vous racontez autre chose, soit vous vous taisez. Et ça, c'est vraiment important, me semble-t-il, de donner le courage aux enfants de prendre la parole et de prendre le risque de les écouter. Mais on a peur. Vous savez, les enfants, c'est subversif, hein, ça remet en cause l'ordre établi, alors que non, ils veulent simplement dire comment l'ordre pourrait être un peu mieux établi en ce qui les concerne. Mais effectivement, je dis toujours que les enfants sont des alter-ego vis-à-vis de nous, c'est-à-dire des autres soi, dotés des mêmes droits humains que vous et moi, mais des autres que soi, différents, dont la différence n'est pas réductible au fait qu'ils fassent 50 cm ou 50 kg de moins. C'est pas parce qu'ils font 50 cm ou 50 kg de moins qu'on a le droit d'utiliser la force, de marquer le corps des enfants quand ils obéissent pas. Et ça, les enfants sont très attentifs à toutes ces injonctions paradoxales, et on ne mesure pas combien d'ailleurs d'adultes sont eux-mêmes dans la reproduction de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants.
Oui, compléter par dire que c'est le fonctionnement du groupement, la menace est le fonctionnement du groupement sectaire. C'est-à-dire que dans tous les mouvements sectaires, il existe des injonctions, des menaces de tous ordres, de façon à créer une frontière entre le groupe et l'extérieur du groupe. Donc la menace est constituante dans le mouvement sectaire.
Ok, donc j'entends très bien là l'histoire de la menace sur les mouvements sectaires. Est-ce que c'est un mécanisme qu'on peut retrouver aussi sur une emprise familiale ? Parce qu'il y a cette histoire de loyauté que vous avez déjà abordée aussi, qui, j'imagine, peut être plus forte aussi avec ses propres parents. Sans entrer dans des détails trop personnels, est-ce que vous avez un exemple précis ?
On observe ça. Les professionnels de la protection de l'enfance, par exemple, le savent très bien. Vous avez toujours ce mythe que le parent va changer. Et donc, vous avez des parents, que ce soit sous forme de perversion, de violence intrafamiliale, de violence conjugale, des adultes qui vont promettre que demain, ça va changer. Et vous avez des enfants qui sont totalement viscéralement liés parce qu'ils ont, envie d'être normatifs, ils ont envie, de comme tous les autres enfants, de vivre en famille, etc. Et vous avez parfois des adultes qui, du jour au lendemain, vont briser le rythme d'un enfant, un enfant qui était en famille d'accueil, par exemple, qui se construit, qui vit plutôt bien, et qui, à un moment donné, sous une promesse dont il sait implicitement que le parent ne la tiendra pas forcément, eh bien vont remettre en cause toute la sécurité de cet enfant. Et et plus vous êtes sous emprise, plus vous êtes en quête que ça va aller mieux. Et puis c'est insupportable de voir que vos parents n'ont pas réussi. Donc il faut un sacré niveau de lucidité et un sacré contenant affectif pour les enfants. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, par exemple, dans ce qu'on entend. Et on a du mal en France à encore définir ce qu'est une vraie visite médiatisée avec des parents qui sont dans le pathos, par exemple, en danger. On a du mal. Ça peut même changer d'un interlocuteur à un autre. Le cadre, où est-ce qu'on le voit ? Et souvent, on a des principes de réalité, de transport, de locaux, etc. Où on va ? Et puis un jour, effectivement... Et puis, il y a aussi la question aujourd'hui du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les rythmes circadiens des enfants, les enfants peuvent être, je dirais, c'est fini l'époque où, si je prends encore à nouveau le phénomène de harcèlement, où le harcèlement s'arrêtait quand il n'y avait pas de portable, puisque vous rentriez le soir, vous éteignez le soir et tous les week-ends. Maintenant, vous êtes sous emprise potentiellement en permanence. On vient jusqu'à vous. Donc il y a des enfants qui sont sous emprise. Vous pouvez avoir une décision du juge qui réserve les droits, mais si vous avez... Quand vous grandissez, vous avez accès à un portable et c'est très facile d'avoir le 06 de qui que ce soit. Donc vous avez des enfants qui sont dans la continuité comme ça et vous avez dans des contextes de grande souffrance, de grande carence, voire de perversion ou de maladie mentale parfois, vous avez des parents qui sont leur enfant et leur doudou. Donc on a une inversion des rôles, une inversion des responsabilités et vous avez qui mettent à mal ça. Il faut bien comprendre que pour un enfant, ça va avoir, ça va sidérer l'enfant. Ça va l'empêcher d'avoir un rythme et ça va jouer sur tous ses apprentissages. Et donc parfois, quand cet enfant va... la goutte fait déborder le vase, eh bien, va passer à l'acte. C'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant avec les enfants. On va ne voir que ce qu'on veut voir, c'est-à-dire, encore une fois, le trouble à l'ordre public et pas forcément... Je rappelle encore une fois, 55% des enfants qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse pour des délits ou des crimes sont connus d'abord par la protection de l'enfance, et d'abord des enfants victimes, qu'on n'a pas réussi suffisamment à protéger.
Ce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue, je pense, c'est que tout cela s'inscrit dans un premier temps de façon inconsciente chez l'enfant. C'est-à-dire que c'est des traumas, mais les traumas, on ne sait que ce sont des traumas que plus tard, quand ils ressortent et qu'ils créent de vraies blessures. Et effectivement, influent sur le comportement d'adulte. Mais pendant son enfance, tout ce que cet enfant vit, c'est sa normalité. Et ça, c'est un peu aussi compliqué pour les adultes qui vont se rendre compte qu'ils ont affaire à un enfant qui est né dans un milieu pervers ou sous emprise. C'est que c'est sa normalité et qu'il ne faut pas et qu'il faut en tenir compte quand on s'adresse à lui. C'est-à-dire, je repense à un jeune homme qu'on a entendu il y a 2 ans qui nous disait qu'il était violé par le gourou du groupe. Et que c'est tout juste si sa mère donnait pas sa bénédiction. C'est-à-dire que la mère était flattée que le gourou ait choisi son fils pour assouvir ses désirs sexuels. Le gourou disait que c'était pour le bien du groupe s'il abusait de cet enfant. Donc c'était sa normalité. Ça, c'est devenu un trauma quand il a réussi à s'écarter un petit peu du groupe. Et qu'il a compris ce qui lui était arrivé. Et là, il a fallu qu'il analyse un peu la réaction de sa mère. Mais dans un premier temps, c'était sa normalité à lui.
Alors, est-ce qu'un enfant qui a vécu dans une ambiance d'emprise familiale a plus de risques de reproduire ce schéma en tant qu'adulte ? Il n'y a pas de chiffre, peut-être ?
Non, c'est très difficile de répondre parce que on connaît bien les traumatismes de la petite enfance sur le cerveau de l'enfant. Hein, les neurosciences l'ont redit de manière très très spécifiquement. Dans chacun de ces traumas, ce qu'on sait, c'est que les enfants ont une très très grande capacité d'aller mieux à la condition que nous, adultes, nous mettions le paquet et qu'il n'ait pas besoin d'attendre 2 ans pour avoir une consultation dans un CMPP ou dans un CAMS ou dans un dispositif spécialisé. Donc c'est toute la difficulté du monde des adultes. Je crois qu'on a encore du mal à repérer, mais même lorsqu'on repère des troubles chez un enfant, on a du mal, au-delà de l'évaluation, à pouvoir proposer un accompagnement pérenne. C'est très sectorisé, donc en fonction de là où vous vivez. Si vous déménagez encore une fois, ou quand vous subissez la précarité du logement, par exemple, eh bien vous avez d'autres, ou l'absence de logement, vous avez d'autres droits qui sont très affectés. Je pense à l'éducation, je pense à la santé. Donc, c'est cette difficulté-là. C'est exactement ce que disent très bien les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, hein, les UAPED, qui se sont développées. Il y en aura une par juridiction, donc 164 UAPED pour écouter la parole des enfants victimes, donc avec quelque chose de très partenarial, puisqu'on a des forces de l'ordre, police, gendarmerie, et puis pédiatrie, parfois pédopsychiatrie, psychologue, assistante sociale, etc. Donc de créer un cocon institutionnel autour des enfants. Mais on voit bien, ce que disent les UAPED, c'est que les UAPED sont souvent dans des grandes villes, très sectorisées, et si l'enfant habite à 30 km, 40 km, qui demain va faire le suivi? Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on fait des promesses aux enfants, on les écoute, mais derrière, nous avons vraiment... Nous sommes un pays qui sait gérer l'urgence. On est très fort sur l'urgence, mais dans la continuité du soin et dans la continuité, c'est très, très compliqué. Et c'est ça qui fait qu'au fond, c'est bien sûr qu'il faut tout faire pour éviter le traumatisme chez les enfants, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, la grande difficulté collective que nous avons, c'est de faire en sorte que ce trauma ne perdure pas alors qu'il est connu. Il est connu. Et donc ça veut dire encore une fois agir sur l'état de la santé scolaire, agir sur l'accès à la santé en proximité, donc compétences de l'éducation nationale, compétences des départements, compétences des services de l'État, des ARS, etc., sur l'accès aux soins. En ce moment, on est plutôt sur une vision de combien ça coûte avant de savoir comment on peut agir. Et c'est vraiment... C'est vraiment un enjeu de considérer les enfants, pas uniquement comme des adultes de demain, mais vraiment aujourd'hui, le développement de l'enfant. Je dis toujours que si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants, la société irait un peu mieux.
Donc on entend bien qu'il y a un besoin de prise en charge globale et coordonnée, mais quand on est face à des enfants, qu'on travaille avec eux, quelle est la première erreur à éviter quand on soupçonne une situation d'emprise chez un jeune ?
Eh bien, peut-être justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas attaquer frontalement l'enfant par rapport aux croyances dans lesquelles il a grandi, en fait, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sa normalité à lui. Et ça, c'est très compliqué parce que le droit de croire en France, ben, on a tous le droit de croire. Voilà. Et du coup, la principale défense des mouvements sectaires, quand on les attaque, alors qu'on les attaque sur les dérives commises au nom de ces croyances, ils nous rétorquent le droit de croire. Et c'est un peu l'erreur qu'il faut éviter de faire quand on a affaire à un enfant. C'est-à-dire qu'il faut continuer à respecter ses croyances. J'ai une histoire aussi un peu qui me fait toujours rire et je voudrais vous la partager parce que c'est une femme un jour qui m'appelle en me disant « Mon mari est un magnétiseur, c'est un vrai gourou ». Je m'entretiens pendant une demi-heure avec elle pour savoir en quoi son mari est gourou, pourquoi elle me l'affirme comme ça. Au bout d'une demi-heure, n'entendant pas d'arguments convaincants, je lui dis « Écoutez, madame, votre mari est peut-être magnétiseur, mais je ne vois pas de dérive sectaire dans ce que vous me dites. » Et elle me dit « Non, mais quand même, moi qui suis astrologue et lithothérapeute, c'est quand même plus sérieux. » Donc, vous voyez, les croyances des uns ne sont pas les croyances des autres, et ça, c'est très important. Ce qui aussi perturbe un petit peu le rapport du primo intervenant sur l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit perturbé par ses propres croyances, il ne faut pas que ça interfère. Voilà. C'est toujours respecter avant tout la croyance des autres, et ça, c'est la première règle.
Et puis, au niveau des enfants, on attend rarement la réponse. On va plutôt projeter ce qu'on pense être bien pour l'enfant, parfois à tort, parfois à raison, souvent à tort. Et donc, soit on va utiliser l'interrogation, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu de réponse dans la question. Et donc, on va forcément diriger les enfants. Et donc, les enfants vont le vivre comme un message, « Bon, je me tais. » Donc, c'est l'écoute, ça prend du temps. Savoir observer des silences, savoir observer ce que le corps dit chez un enfant, ça prend du temps. Ça prend du temps, encore, et il ne vous a pas échappé qu'on vit dans un monde où on crée de l'urgence en permanence. Regardez votre boîte mail tous les matins. Vous êtes dans la boucle du monde entier. Eh bien, le travail, c'est toujours le temps qu'on n'a pas pour nos enfants. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un changement de culture, changement de paradigme, de pouvoir. Encore une fois, c'est pas trop en faire, c'est pas dire oh là là, en écoutant les enfants, ils vont prendre le pouvoir, etc. Non, c'est vraiment, je crois, être dans une forme de prévention bienveillante, sécure, parfois ferme, mais encore une fois, qui permet vraiment de pas passer à côté de ça. Et je crois que là, il y aurait des enjeux de formation. Moi, je rêverais qu'on ait des pôles de formation ou dans des cursus d'infirmières, d'enseignants, de juges des enfants, enfin de magistrats, de médecins, etc. Eh bien, il y ait une culture des droits et du développement de l'enfant sur effectivement cette écoute attentive et bienveillante. Il ne suffit pas de faire des spécialistes de l'enfance, mais pouvoir avoir des adultes qui vont se poser un certain nombre de questions en termes de repères. Et qui vont pouvoir rediriger l'enfant vers des spécialistes plus spécialistes, encore une fois. Mais il faut être dans une prévention de l'écoute, et ça va trop vite, et ça va trop vite, ça va trop vite. Et parfois, on a des groupes très hétérogènes, on gère des groupes d'enfants, et on a du mal à voir les individualités dans ce groupe.
Éric Delmar, vous l'avez déjà un peu abordé lorsque vous parliez du numérique tout à l'heure, mais de manière générale, en tant que défenseur des enfants, quelles recommandations adressez-vous au pouvoir public pour renforcer la protection des mineurs face au risque d'emprise ?
Alors, là, on a fait un certain nombre de recommandations. D'ailleurs, des recommandations qu'avait fait aussi le député Studer, qui a été à l'origine d'un certain nombre de lois sur le contrôle parental, sur protéger les enfants qui étaient mis en ligne par leurs parents, et les parents s'en servaient pour vendre des produits, etc. Tous les enfants influenceurs. Et on avait fait des recommandations, nous, autour, je dirais, de l'interdiction du numérique que les scientifiques, hein, donc pas d'écran avant 3 ans, tout ces enjeux-là. On a fait des recommandations pour l'école, sur la sensibilisation, la sensibilisation à chaque rentrée scolaire au niveau des parents, mais encore faut-il faire en sorte de pouvoir accueillir la parentalité dans un contexte où les relations entre parents et école s'est distendue depuis la crise sanitaire. La médiatrice de l'éducation nationale l'a bien expliqué dans un certain nombre de rapports d'activité. Donc il y a une vraie formation. Nous, depuis longtemps, nous avons défendu une loi qui a plus de 23-24 ans maintenant, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui a fait énormément de débats dans des prises de position assez, je dirais, populiste, où on a voulu instrumentaliser cela en ignorant le développement de l'enfant, en ignorant la protection de l'enfance, alors que les enfants sont très, très demandeurs de prise en compte, d'être sensibilisés à la protection de leur corps, à la protection de leur première sphère d'intimité. Donc on a fait un certain nombre de recommandations, on a fait un rapport sur le droit à la vie privée des enfants. Donc c'est ce type de recommandations qu'on a fait, une vraie sensibilisation, et en même temps, je crois moi que le numérique est une chose extraordinaire et que de toute façon on ne retarde jamais le progrès. Par contre, on l'aménage. Et la vraie difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'on a des enjeux très paradoxaux. Donc on a ce numérique qui est omniprésent, mais on a des enjeux, par exemple, si je prends les enjeux de solidarité autour des enjeux climatiques, où les gens vont avoir besoin d'exprimer leur solidarité à l'extérieur de chez eux, de pouvoir se solidariser quand on a des problèmes climatiques, des événements météorologiques extrêmes. Donc comment on fait en sorte aussi que les enfants aient accès à l'extérieur? Et c'est ça que je disais tout à l'heure. On ne supporte plus les enfants dans la rue, on ne les supporte plus dans les transports, on préfère. Vous pouvez aujourd'hui, encore une fois, venir avec votre chien et votre chat dans un train, mais dans certains wagons, et pas avec des enfants. Donc on est en train de renvoyer aux parents, ou aux futurs parents, ou aux jeunes qui se posent la question, c'est complexe, c'est stigmatisant d'avoir des enfants demain. Et enfin, on est quand même, encore une fois, dans un pays dont la démographie baisse. Donc la place de nos enfants, me semble-t-il. Donc il faut vraiment mettre le paquet sur les enfants d'aujourd'hui, l'avenir de notre humanité et de notre société. Et je crois que ça nécessite de considérer les enfants comme des sujets de droit, et pas des objets de prise en charge, qu'on se refile en fonction de leurs difficultés. Ça, c'est donc un certain nombre de recommandations que vous retrouverez sur le site du Défenseur des droits, sur tous les rapports que nous écrivons chaque année.
On a demandé aux enfants, justement, s'ils connaissaient des influenceurs. On les écoute.
Anime, il a fait des musiques, ce que je sais aussi, il est drôle. Mr Beast, c'est un millionnaire qui fait plein de trucs, des jeux, comme il enferme des personnes pendant 100 jours et il gagne telle chose. Ou comme de l'argent, il gagne de l'argent s'ils font un défi. Inoxtag, il est courageux parce qu'il a quand même monté l'Everest, alors que normalement il n'était pas entraîné. Il fait aussi comme anime un peu des chansons et il est drôle.
Squeezie, j'aime bien parce que il fait des vidéos de toutes sortes. Drôle, des jeux vidéo à l'extérieur, Inoxtag. Des fois, il fait des sports extrêmes et ça, j'aime bien, c'est bien. C'est bien drôle.
Ninomiscli qui fait des vidéos, moi je trouve ça drôle.
Donc on entend que les jeunes sont particulièrement friands de ce qui est drôle, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Concrètement, est-ce que ça peut être une porte d'entrée de l'emprise en ligne, l'humour ?
Très honnêtement, je n'en sais rien. Ce qui est une porte d'entrée, c'est la réponse à une question, quelle qu'elle soit. Donc si on a besoin de rire, l'humour effectivement donc peut être une porte d'entrée, mais la plupart du temps c'est répondre à un besoin, comme Eric Delmar l'a expliqué tout à l'heure, c'est répondre à un besoin fondamental, à une question fondamentale. Et à cela, les mouvements sectaires présents sur les réseaux sociaux ont toujours effectivement les réponses adaptées.
Du coup, pour rester concret, comment les groupes, les sectes ciblent-ils les jeunes aujourd'hui, particulièrement en ligne ?
La musique, par la musique par exemple, beaucoup de groupes évangéliques recrutent par des groupes musicaux en fait. Et après, vous avez tout ce qui a trait à la santé. Alors ça, c'est un très vaste domaine où, effectivement, cette recherche de mieux-être, même, effectivement, d'idéal, enfin, d'être idéal, hein, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, il y a plein de propositions qui tournent mal, finalement, parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui vont vous mettre sous emprise. Et la santé est quand même aujourd'hui le secteur de prédilection des mouvements sectaires. C'est à peu près 50% de nos appels, un peu plus de 50% de nos appels, tout ce qui est en lien avec la santé. L'éducation prend aussi une grande part, mais la santé reste quand même le plus grand... oui, le secteur de pénétration le plus important. Et après, on a tout le pseudo-religieux. Alors, pseudo-religieux, c'est pour ne pas dire que le religieux, c'est pas bien, parce que c'est pas vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que tous les groupes religieux déviants, on met ça dans la catégorie pseudo-religieux. Voilà.
Je voulais juste que tout ça s'opère aussi dans un contexte dont il faut avoir confiance sur le déversement du numérique qui arrive dans votre propre intimité. Je dirais, nous avons des politiques publiques, nous avons su faire des politiques publiques, parfois qui sont imparfaites, mais on a des vraies politiques publiques sur un enfant ne peut pas acheter d'alcool. Un enfant ne peut pas normalement acheter de cigarettes. Il ne peut pas faire des paris en ligne. Mais dans le numérique et dans les influenceurs, vous avez une tendance incroyable. C'est au fond, on s'adresse aux enfants comme des individus lambda et pas comme des mineurs à protéger. C'est-à-dire que ça arrive sans barrière. Alors il y a au niveau européen le DSA, donc une réglementation vis-à-vis avec des sanctions possibles que les pays doivent mettre en place vis-à-vis des opérateurs, des plateformes, etc. Mais on a encore accès, enfin la pornographie, la cybercriminalité en est l'exemple parfait. En un clic, vous avez même des pop-up qui vont venir, vous n'avez rien demandé. Donc on s'adresse à vous comme un individu qui est dont le cerveau n'est pas arrivé à maturité, qui n'a pas eu l'expérience suffisamment d'échecs et d'erreurs qui construit un être humain adulte et qui a dans les générations précédentes, ben il y a eu des paliers comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez très très tôt être devant un écran et un contenu vous échappe parce que vous avez mal cliqué ou parce que la plateforme n'attend que ça. Vous avez même des plateformes qui vont maintenir les enfants en éveil et qui vont avoir des problèmes de sommeil, des rythmes circadiens, des problèmes alimentaires et des problèmes d'apprentissage. Donc c'est tout ça opère. Alors pour les mouvements sectaires, c'est une autoroute. Mais pour tout ce qui est criminalité, c'est une autoroute. Et ça, on n'arrive pas encore à légiférer suffisamment au nom parfois de liberté d'adulte. Mais on a 14,8 millions d'enfants dans notre pays et qui méritent d'être protégés.
Ce qui est peut-être très en vogue aujourd'hui, et ce sur lequel je voudrais insister, c'est la radicalisation d'une idéologie, celle du masculinisme. Je veux insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, le masculinisme, c'est ce qui touche le plus les adolescents. Pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, c'était vraiment un très bon exemple. Mais le mouvement incel pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que, justement, encore une fois, à un âge, l'adolescence, où on se pose des questions sur les relations avec le sexe opposé, incel a des réponses très radicales. Mais malheureusement, beaucoup d'adolescents aujourd'hui se retrouvent dans ces réponses-là et adhèrent très facilement, malheureusement, à cette idéologie-là.
Dans le public aujourd'hui, il y a principalement des acteurs du monde éducatif. Comment renforcer la prévention dans ces espaces éducatifs-là et d'animation sans pour autant créer un climat de suspicion permanent ?
Ben, écoutez, c'est la conversation que j'avais avec mon assistante hier, parce qu'elle discutait avec une jeune fille. Elle lui disait « Attention, ça, c'est sectaire. » Et donc la jeune fille lui fait « Oh, j'en ai marre, tu vois des sectes partout. » Voilà. Donc ça répond un peu à ce que vous venez de dire. Effectivement, les mouvements sectaires sont dans tous les domaines d'activité parce que, comme je vous le disais, comme ils répondent à toutes les questions, forcément, ils sont dans tous les domaines de la vie. Bon, ça, c'est un fait. Pour autant, il ne faut pas devenir paranoïaque, c'est-à-dire que chaque relation ne doit pas être suspectée comme étant une expérience sectaire, chaque nouvelle relation, mais néanmoins, il faut quand même avoir certains codes. Donc l'UNADFI fait depuis 3 ans des formations. auprès de différents professionnels, y compris des éducateurs et des animateurs. Ce sont des formations qui marchent en général très bien parce qu'on est très, très attaché à l'enfance, à l'UNATFIS, et les enfants sont pour nous une grande priorité. Et du coup, en général, les formations se passent vraiment, vraiment très bien. Il y a une bonne réception de ce qui est enseigné.
Alors, quand on a posé nos questions aux jeunes, presque aucun d'entre eux ne connaissait le terme d'emprise. Quelques-uns ont même essayé de le définir.
Est-ce que tu connais le mot emprise ?
C'est comme prendre quelque chose, un peu. Avoir quelque chose, posséder quelque chose.
Quand on aime quelque chose, il nous prend.
Tu peux aller plus loin. Comment
on ne peut pas se détacher.
Empreinte, un peu.
Donc on a parlé d'entendre la parole des enfants, mais selon vous, à partir de quel âge on peut les sensibiliser à l'emprise, au phénomène, et leur expliquer ?
Moi, je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est vrai qu'en fait, l'emprise, pour moi, on peut l'aborder justement par rapport au harcèlement scolaire, par exemple. Qu'est-ce que c'est dans un groupe, quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur l'autre ? Je pense qu'il y a moyen, dès la primaire ou peut-être avant, ça, je ne suis pas spécialiste personnellement, mais je pense qu'il y a moyen très jeune d'aborder ça. Après, par les domaines d'infiltration, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense qu'on peut déjà... l'aborder de façon un petit peu plus claire pour les collèges et les lycées. Mais ça me paraît indispensable qu'il y ait des bases posées dès le plus jeune âge.
Oui, ce qui est vraiment important pour les enfants, c'est l'affiliation, le lien social. Et ça commence dès tout petit. Dès tout petit, c'est encore une fois leur donner en héritage la parole, et que cette parole n'est pas... On a le droit de se tromper, mais que cette parole n'est pas menaçante, où elle ne reviendra pas remettre en cause l'ordre des adultes, qui est parfois un gros désordre. Et on a des expériences, même en France maintenant, mais qui ont été très développées, pas que dans les pays du Nord, hein, aussi au Portugal, sur la manière dont on a construit des unités d'accueil petite enfance ou des crèches. C'est-à-dire des crèches qui sont avec des pratiques très, très dirigées vers l'extérieur. C'est-à-dire des enfants qui vont dormir dehors, dans des parcs, quel que soit le temps, qui vont être bien emmitouflés. Des enfants qui vont jouer très vite, qui vont manipuler des objets, qui vont être dehors. Et en fait, on observe, un, que c'est des enfants qui auront moins de problèmes de santé. C'est des enfants qui vont être plus agiles, qui vont moins se blesser. Par contre, ça fait des enfants plus emmerdants pour les adultes, parce qu'ils sont plus curieux, ils posent plus de questions. Vous voyez, ils sont moins enfermés dans la salle, etc. Moi, je suis très surpris quand je vois encore des crèches qui se construisent totalement bétonnées dans des centres-villes, quoi. Je me dis, mais voilà. Donc on sait comment faire en sorte que les enfants puissent développer un lien social. C'est fondamental. Avec ce qui arrive à une vitesse que vous voyez, que vous percevez, avec des conséquences sur l'emploi, avec des conséquences sur les démarches vers les services publics, c'est toute l'intelligence artificielle. Quels vont être demain les prérequis, l'accès à la lecture, l'accès à la connaissance, à l'esprit critique, avant de tout filer à une IA qui, en plus, plus besoin d'efforts. Donc, ça vous fait vos discours. Donc, c'est ça qui est fondamental. Et je crois que, bien sûr, qu'il faut s'intéresser sur les interdictions. Enfin, les interdictions n'ont jamais rien sans prévention, sans politique publique de prévention, de sensibilisation. Et donc, il faut dire aux enfants, le numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes d'évolution, c'est la bibliothèque du monde, mais en même temps, ce qui est fondamental, c'est le lien social, l'empathie, l'altérité, la maïeutique, la façon de créer cette démocratie, c'est-à-dire pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est ça qu'il faut inculquer aux enfants très très jeunes. Mais pour ça, il faut éviter, c'est ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le masculinisme se développe d'autant plus parce qu'on n'en a pas fini avec le patriarcat, il suffit de regarder certaines assemblées, hein, vous allez voir, ça marche très bien. Donc c'est ça qui est fondamental. Et on est en train d'inculquer à nos enfants, et notamment au collège, là où les violences scolaires sont le plus fort, la tyrannie de l'image, likez-moi, dites-moi que j'existe, et en plus, quand je vous parlais des toilettes tout à l'heure, des zones de non-droit, en plus vous prenez le risque d'être filmé dans ces zones-là. Donc ça veut dire qu'on est là dans un combat sur les enjeux d'égalité, des enjeux d'égalité qui sont fondamentaux. Et ça, les enfants très très tôt, les enfants tout petits, ils ont une sensibilité incroyable aux injustices. Alors, très très forte. Ils ont besoin d'être rassurés pour ça. Et ils sont capables de dire, oui, mon camarade a fait une bêtise, c'est normal qu'il soit sanctionné, mais en même temps, qui va s'occuper de lui ? L'accès aux soins, l'accès à la réparation, l'accès à l'éducation. On ne va pas tous les mettre en prison. Donc c'est ça qui est fondamental, de créer le lien social. Et on sait, scientifiquement, éducativement, on le sait, encore faut-il, que les politiques publiques envers les enfants soient une priorité.
Une question générale pour terminer. Quel message doit absolument être transmis aux jeunes et à leur entourage pour pouvoir renforcer leur vigilance et repérer les discours manipulateurs ?
C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on peut avoir des discours de manipulateurs dans, au travail, à l'école, mais un commercial. Enfin bon, c'est vrai que la manipulation est quand même une méthode d'approche et pour convaincre. Je crois que pour c'est son intimité. À partir du moment où une personne tente par n'importe quel moyen de pénétrer votre intimité, et quand je parle, je dis pénétrer votre intimité, c'est-à-dire essaye d'aller en vous-même de façon à vous transformer, il faut se méfier. Pendant très longtemps, on a pensé qu'un groupe sectaire, ça se reconnaissait parce que ça demandait beaucoup d'argent. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que la recherche de pouvoir sur l'autre est plus forte qu'avant. Si vous avez cette sensation que vous ne faites pas vraiment les choses par choix, mais parce qu'elles vous sont implicitement imposées, et des fois, il peut y avoir, ça peut être imposé de façon très douce. Hein, il faut quand même se méfier. À partir du moment où on vous demande de ne plus être ce que vous êtes, il faut se méfier.
Alors, notre émission touche à sa fin. Dans quelques instants, nous allons passer aux questions du public.
Mais avant, nous tenons à remercier nos invités pour leur présence et leurs réponses. Nous remercions également la préfecture de l'Ain pour le soutien apporté à ce projet.
Nous remercions l'Université de Bourg-en-Bresse de nous avoir accueillis.
Merci enfin aux structures qui nous ont permis de rencontrer les enfants là où ils sont, le collège Thomas Ribou et la sauvegarde de l'enfance de l'Ain, l'école de Jasseron. Merci également aux financeurs qui permettent la réalisation de ce projet, Politique de la Ville, Service de l'État et Grand Bourg, Agglomération et la CAF.
On vous retrouve très vite sur les bonnes ondes de Radio B90 FM.